François Théoret, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-président de développement des affaires au groupe Projacques. Et on est là ensemble, François, pour parler d'une étape qui est importante, qui peut être bouleversante aussi au sein des familles, c'est-à-dire le passage de sa propre résidence, sa maison, vers une résidence pour personnes aînées. Étape importante pour la personne elle-même, parfois son conjoint, conjointe, les enfants et la famille, l'entourage proche. Et il y a des façons de bien orienter les personnes pour faire des choix éclairés. Quels sont les critères à observer en premier lieu?
Je dirais... C'est une étape stressante également oui. et déstabilisante pour l'aîné et sa famille. Alors, le choix de changer de domicile provient de différentes raisons. Alors, que ça peut être une perte d'autonomie, un deuil du conjoint, on ne veut plus rester seul. Ça peut être volontaire, comme ça peut être aussi involontaire en raison de son état de santé. Alors, tout ça fait en sorte que c'est déstabilisant pour l'individu et sa famille. Et il existe différentes aides pour ces gens-là pour bien identifier leurs besoins et trouver la résidence pour aînés, qui sont des conseillers en hébergement pour aînés.
Oui.
Alors, c'est un métier, je dirais, qui est encore méconnu aujourd'hui, même si ça fait près d'une vingtaine d'années que ça existe. Ce sont des gens, des hommes, des femmes, qui ont une expérience dans le réseau de la santé, qui sont en mesure d'évaluer les besoins de l'individu. Et je fais toujours l'analogie avec le consultant en entreprise. Plus jeune, j'ai eu la chance d'être consultant. J'étais le petit gars de 30 ans avec un directeur général de 50 ans et je lui disais, le bloc opératoire, on va l'organiser de telle façon. J'étais pas nécessairement plus brillant que lui, mais j'avais le recul que le DG n'a pas. Et lorsque nos conseillères se présentent avec un aîné, on voit toute la forêt, on voit pas seulement l'arbre. Donc, on a le recul et on est capable de challenger et d'identifier les besoins.
Ouais. Et peut-être donc, d'aller au-delà aussi de cette anxiété-là, du malaise aussi, parce que ça bouleverse des valeurs, ça change un plan de vie, parfois aussi, comme vous le dites, François Théoret, parfois c'est voulu, c'est souhaité, parfois ça ne l'est pas, parfois c'était même pas dans le plan de match d'arriver à ce choix-là. Ça prend aussi une certaine aisance à comprendre ce que peuvent vivre les gens.
Exact. Et bien saisir le besoin. Et à partir de là, d'identifier les résidences. Il existe près de 2000 résidences au Québec en fonction des besoins X, Y, Z. Quelles sont les résidences qui correspondent à nos besoins?
Ouais.
Et c'est là la valeur ajoutée d'un conseiller en hébergement. Et c'est un service qui est totalement gratuit. Alors, pourquoi s'en passer puis faire les démarches soi-même, oublier certains besoins qui sont essentiels et faire le mauvais choix d'une résidence et recommencer 6 à 9 mois plus tard.
Quand ça entraîne des coûts aussi de changer les déménagements et tout ça. 2000 résidences au Québec, il y a différents types de résidences, François.
Exactement. Il y a des résidences autonomes, semi-autonomes, non-autonomes, des ressources intermédiaires publiques ou privées et des CHSLD publiques ou privées aussi. Avant d'arriver au choix d'une de ces ressources-là, il y a différents critères qu'on doit prendre en considération pour faire le bon choix. Que ce soit le secteur, son état de santé, le budget, ce qu'on recherche comme type de résidence, une grande résidence, une petite résidence, à proximité des enfants, des centres commerciaux. Alors, plusieurs éléments là à prendre en considération pour faire le bon choix. Et parmi les résidences, mais comme je le disais, il y a des résidences 100% autonomes où ce sont des résidences avec une infirmière qui est là au besoin, salle à manger, mais pratiquement pas de service d'aide à l'hygiène, d'aide au bain, etc. Donc, il y a d'autres résidences qui offrent plus de soins avec des étages de soins pour une clientèle en perte d'autonomie physique ou en perte d'autonomie cognitive.
Mm-hmm.
Et si on va un peu plus loin, il existe des CHSLD qui peuvent être sur une base publique, comme on le connaît actuellement, ou totalement privée. Et la nuance entre les deux, souvent on dit en public, c'est gratuit. mais c'est pas vrai parce que c'est un peu plus de 1 800 $ par mois que ça coûte à l'individu pour aller en CHSLD public. Et en CHSLD privé, bien évidemment, ça peut être un peu plus élevé. D'où vient le différentiel? Mais c'est nos impôts à nous tous qui payons la portion du public.
Ouais. Je vous écoute, François Théoret. Il faut, quand on arrive à cette étape-là, être très honnête avec soi-même aussi. Je m'intéresse à notre état de santé. Ça détermine probablement le choix de bien des gens. Est-ce que les services, les centres hospitaliers sont proches? Vous parliez tantôt de soins d'hygiène, soins de santé. Est-ce que la personne qui se présente chez vous, qui a besoin de conseils et d'orientation, doit avoir un bilan de santé de son médecin?
C'est pas nécessaire d'avoir un bilan de santé global du médecin. La conseillère est apte à identifier ses besoins. Mm-hmm. Évidemment, souvent, il y a une travailleuse sociale qui est près du dossier et qui est en mesure de collaborer à la demande de la famille avec nous pour nous transmettre des informations additionnelles. Mais la conseillère est en mesure là, vraiment d'évaluer quels sont les besoins de la personne. Parce que souvent, la conseillère, c'est une travailleuse sociale, c'est une technicienne en réadaptation, mm-hmm. c'est une infirmière. Donc, ce sont des gens là qui sont vraiment aptes à identifier les bons besoins. Et à partir de là, trouver la résidence qui correspond sur le territoire qui est recherché.
OK. Quelle est l'approche particulière, François Théoret, quand ce n'est pas un choix? On en parlait tout à l'heure. Quand ce n'était pas prévu de déménager et d'aller vers une résidence pour personnes aînées?
Et là, il y a toute la notion de, tant au niveau du parent que de l'enfant, de faire comprendre la situation, de faire accepter qu'on est rendu à un niveau où on n'a pas le choix. L'état de santé de monsieur et madame ne convient plus à rester à domicile. Les services de maintien à domicile ne sont plus suffisants. Et il faut passer à une autre étape. Alors, et ça, souvent, au niveau de l'enfant, on doit le faire beaucoup avec les problèmes de perte cognitive. L'enfant n'est pas en mesure de comprendre jusqu'où son parent est rendu. Et on a un petit outil qui permet de faire une analogie entre un âge d'enfant et l'évolution de la maladie d'Alzheimer et qui nous permet de dire, ben, est-ce que vous laisseriez un enfant de 5 ans seul chez lui à domicile, etc. Alors, c'est une question là de perception et de faire comprendre on est où, on s'en va où et de dire à partir de là, ben, il existe différents types d'hébergement qui pourraient correspondre à vos besoins.
Oui. J'ai été heureuse de lire dans le document « Plus belle la vie » parce qu'on parle de choix, les critères, qu'est-ce qui nous oriente, et ça peut être parfois des détails comme des choses très importantes auxquelles on n'aurait pas pensé d'entrée de jeu, l'animal de compagnie. Et il y a plusieurs résidences au Québec pour personnes retraitées, pour personnes aînées qui permettent l'animal de compagnie. C'est quand même à souligner.
Exactement. En général, ils refusent, mais tant qu'on est en mesure de s'occuper de l'animal de compagnie, c'est accepté. Évidemment, le chien en bas du livre, ça passe beaucoup mieux qu'un gros chien de 25 livres.
Oui.
Alors, ça, c'est à prendre en considération aussi. Lorsqu'on fait l'évaluation, encore une fois, on visite le client à son domicile. Ça nous permet de voir dans quel milieu l'individu habite. Ça nous permet de valider également son niveau d'autonomie. Mmh. Question de lui trouver par la suite le bon milieu de vie et d'aller chercher tous ces petits détails-là. Un autre exemple, c'est je veux partir des Laurentides, je m'en vais dans Montérégie parce que mon enfant habite là. La vraie question qu'un individu doit se poser, c'est le fait de se détacher de son milieu, de son environnement, de ses amis. Est-ce que ça va faire en sorte que si je m'en vais à Montérégie, mes enfants vont venir me voir plus souvent?
Mm-hmm. Oui.
Alors, ça, il faut poser cette question-là. Quand on voit des clients qui partent d'un territoire vers l'opposé, bien vraiment, c'est des challenges et de leur poser la question pourquoi et croyez-vous que votre enfant va venir vous voir plus souvent?
Oui.
Il faut les faire cheminer dans leur réflexion.
Oui, et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, d'être honnête envers soi-même pour faire le bon choix. Vous parlez-vous de challenger, c'est d'oser poser les bonnes questions, parfois peut-être des questions qui sont plus délicates, mais qui amènent une réflexion qui est juste. Est-ce que ce sont des rendez-vous uniques avec les conseillers ou il peut y avoir une série de rendez-vous?
Il peut y avoir plusieurs rendez-vous. Dans le fond, le processus d'évaluation est le suivant. Il y a un premier appel téléphonique qui dure environ 15-20 minutes, qui est la qualification du dossier, c'est-à-dire quel secteur, quel niveau d'autonomie, quel budget. À partir de là, on regarde s'il y a une adéquation entre les besoins et le budget, et on va aller évaluer à domicile l'individu pour identifier ses vrais besoins. Au téléphone, on dit chez Autonome, on sonne à la porte et on nous répond en marchette et on est chambranlant. Alors, ça nous permet vraiment d'évaluer ça. Suite à ça, on va prendre les rendez-vous avec les résidences. Et on ne fera pas 12 résidences, on va faire entre 2 et 4 résidences.
Mm-hmm.
On prend les rendez-vous, on accompagne l'individu lors des visites. On l'aide à faire le bon choix et on va également l'assister à la signature du bail afin de s'assurer que tout soit conforme pour que l'individu puisse avoir le maximum de crédit d'impôt de maintien à domicile.
Et tout ça est gratuit?
Tout ça gratuitement, sans aucune obligation de la part de l'individu. Donc, pourquoi s'en passer?
Oui. On va sur plusbelle-lavie.com pour en savoir davantage et vous joindre, François Théoret.
Exact. plusbelle-lavie.com ou le 1-855-966-0001.
Oui. Un service qui, on doit le souligner, est de plus en plus essentiel avec le vieillissement de la population et bien sûr les soucis que ça peut amener aux proches lorsqu'il y a une perte soit de mobilité ou encore des pertes cognitives. François Théoret, vous êtes vice-président du développement des affaires au groupe Projac. Merci beaucoup.
Merci infiniment. Bonne fin de journée.
Au revoir.